Chapitre 4. Ernest, as-tu de l'honneur ? Demanda Ferdinand en prenant le petit garçon par le menton. C'était le lendemain de la première leçon de latin. Il pleuvait. Le club Feuille de trèfle était réuni sur les marches du petit pavillon, au fond du jardin du docteur. Le large toit d'écorce, se projetant au-dessus de la porte, les abritait contre l'averse. Pourquoi me demandes-tu ça ? Fit Ernest d'un ton défiant. Parce que, si tu as de l'honneur, nous te confierons un secret, un grand secret. Est-ce vrai, Siméon ? Parfaitement, puisque Ferdinand le dit. Eh bien, montrez-le, votre secret, s'écria-t-il, flatté d'être mis dans la confidence de ses aînés. Il faut d'abord, dit gravement Ferdinand, que tu t'engages à le garder. Donne-moi ta main, pas la gauche, la droite. Bon, dis maintenant. « Croix de bois, croix de fer !» Ernest connaissait bien cette formule, usitée parmi les enfants du village et considérée par eux comme le plus formidable des serments. Il hésita d'abord, regarda Siméon, prit courage et dit lentement « Croix de bois, croix de fer, mais dix serments, le doigt en l'air !» Puis il retira sa main de celle de Ferdinand et leva l'index vers le toit d'écorce. La cérémonie était achevée. « Tu sauras, dit Ferdinand, que Siméon est résolu à devenir un grand savant. »« S'il peut, dit Siméon, et que, pour commencer, il apprend le latin. Il aura tous les jours une leçon, mais tu ne le diras à personne, ni à ta tante, ni au gamin de l'école, ni surtout à Mademoiselle Caton. Si elle l'apprenait, elle se dépêcherait de nous mettre des bâtons dans les roues. »« Mais qui est-ce qui lui donnera ses leçons ? Demanda Ernest. » « Moi, dit Ferdinand, et, elle embrassa Ernest pour cacher la rougeur qui lui couvrait les joues, si tu es un bon petit garçon, tu nous aideras à garder notre secret. »« Je ferai mieux que ça, dit Ernest en se redressant avec fierté. C'est moi qui couperai le bois afin que Siméon ait plus de temps pour étudier. »« Bravo, s'écria Ferdinand, nous allons commencer tout de suite. J'ai là ma grammaire et mes cahiers. Pendant que Siméon étudiera, « je jouerai avec toi, Ernest. Dis-moi une histoire, veux-tu ?»« Très volontiers, je vais chercher un livre. » Ernest n'aimait pas à lire lui-même. Ses mots noirs sur la page blanche le laissaient indifférent. Mais quand Ferdinand les prononçait, avec les intonations variées qu'elle savait y mettre, l'histoire prenait alors vie et couleur. On voyait Robinson dans son île, avec ses habits de peau de chèvre. On voyait Vendredi, on entendait le perroquet. C'était comme la lanterne magique, et mieux encore, car les personnages parlaient. Tandis que la pluie, s'égouttant du toit, tombait, avec un bruit léger et monotone sur le sable de l'allée où elle creusait de petits trous, les trois amis, assis côte à côte sur les marches blanches, passaient une heure délicieuse. Ernest, la bouche ouverte, suspendu aux lèvres de Ferdinand, ne perdait pas un mot de l'histoire, tandis que la lectrice, l'esprit distrait, le cœur content, songeait vaguement aux futures grandes destinées de Siméon. Celui-ci, les coudes sur les genoux, se bouchait les oreilles et s'absorbait dans les difficultés de la troisième déclinaison dont il était décidé à se rendre maître avant l'heure du dîner. Sans mot dire, il passa à Ferdinand le cahier dans lequel il avait écrit son premier thème. « J'espère que tu as fait des fautes, » dit en riant Ferdinand. « Voyons cela !» Le crayon en l'air, prêt à fondre sur la moindre incorrection, elle examina sévèrement chaque mot. « Ah, c'est ennuyeux » fit-elle en arrivant à la dernière ligne. « Tu n'as pas une seule faute. À quoi est-ce que je sers, moi ? Je te le demande. » « À constater que je n'ai pas une seule faute, » répondit tranquillement Siméon. « Ça ne me suffit pas. Je veux être un vrai professeur. » « Je veux corriger, expliquer et même te donner des pensums à l'occasion. »« Oh, Siméon, que ce serait amusant! Écrirais-tu un pensum si je te disais de le faire ?»« Mais certainement, avec plaisir. »« Eh bien, élève Siméon Taubert, vous m'écrirez 10 lignes pour demain matin. »« Si vous répliquez, ce sera 20. »« Et si vous récidivez, comme dit Mademoiselle Caton, ce sera 3000. » La leçon finit ainsi dans un éclat de rire. Le chroniqueur du club Feuille de trèfle serait heureux de pouvoir enregistrer, à la louange d'Ernest, que celui-ci n'abusa pas de sa possession du secret pour tyranniser Ferdinand et Siméon. Mais l'histoire est l'histoire, il faut qu'elle dise toute la vérité. Pendant une semaine entière, Ernest fendit chaque jour la provision de bois du ménage, comme il s'y était engagé dans un beau mouvement. Mais bientôt, il se lassa de cette besogne et Siméon reprit sa tâche ordinaire, tandis que l'esprit tracassier d'Ernest s'ingéniait à ne laisser nul repos à son entourage. Pendant que Ferdinand corrigeait les thèmes de Siméon, Ernest s'ennuyait. Il eût voulu qu'on s'occupât de lui. Au lieu de jouer seul ou de lire, il bâillait, il grognait, il jetait du gravier à Siméon, ou bien il parlait à haute voix, récitant avec volubilité tout ce qu'il savait de la table de multiplication. Bref, il mettait tout en œuvre pour se rendre insupportable, et il y réussissait admirablement. Un jour, Ferdinand exaspéré fondit sur lui et se mit à le secouer d'importance. Comme il se défendait avec une belle énergie, Siméon se leva. Laisse-le, Ferdinand, je crains que tu n'attrapes un coup, dit-il en saisissant lui-même son frère au collet et en le faisant asseoir, malgré sa résistance, sur les marches du pavillon. Et maintenant, si tu as quelque chose à dire, dis-le et qu'on en finisse. Il était rare que Siméon prît ce ton sévère. Ernest se sentit intimidé. « Je m'ennuie !» fit-il d'un ton larmoyant en fourrant son poing dans son œil. « Vous ne pensez plus qu'à ce vilain latin. Dans le temps, on s'amusait ensemble tous les trois. » « C'est vrai, » dit Siméon en regardant Ferdinand. « Peut-être que nous le négligeons un peu. » Fort de ce premier succès, Ernest reprit. « Je voudrais que tu me fasses un cerf-volant. Tous les garçons du village en ont. » Je t'en ai fait un le printemps passé. Oui, une vilaine machine en papier gris avec pas un ornement collé dessus. J'en voudrais un en papier blanc à bandes rouges avec une longue queue. Si tu le fabriquais toi-même, ça t'amuserait, suggéra Ferdinand. Ma tante ne veut pas me donner de colle, elle dit que je poisse mes habits. C'est que tu es un petit maladroit, répliqua-t-elle. Et jugeant l'incident clos, elle reprit son livre. Mais Ernest fâcha, et voyant en ce moment Mademoiselle Caton traverser le jardin, il dit, en haussant la voix, « Je veux que Siméon me fasse un cerf-volant, ou bien je dirai à tout le monde qu'il apprend des choses en cachette. » Par un mouvement très vif, qui ressemblait singulièrement à une claque, Ferdinand lui mit la main sur la bouche. « Oh, le petit serpent » s'écria-t-elle. « Voyons, Ferdinand, mesure des expressions, » dit Siméon qui paraissait très contrarié. « Ce que tu fais là, Ernest, n'est pas du tout honorable. Tu aurais eu ton cerf-volant en le demandant d'une autre façon. »« As-tu bien le cœur, » reprit Ferdinand, « de tourmenter ainsi ton frère quand tu vois qu'il a tant d'inquiétudes et de soucis ?»« Bon, nous voilà dans l'élégie, » fit Siméon en se détournant brusquement. Il n'aimait pas qu'on fît allusion à ses inquiétudes, trop réelles, mais qu'il laissait voir fort rarement. C'était un garçon concentré, très fier, qui ne cherchait de secours que dans sa propre persévérance et qui craignait surtout de paraître solliciter l'aide du docteur Arvoine par l'intermédiaire de Ferdinand. Il voyait clairement son but et s'était juré d'y parvenir, mais comment? C'était la question qu'il se posait chaque jour. Il progressait dans le latin, il étudiait avec ardeur tous les livres d'histoire naturelle que renfermait la bibliothèque de l'école, mais après, d'où lui viendraient les ressources suffisantes pour le faire vivre pendant quelques années, pour payer des cours, des livres, des instruments? C'était à ce problème qu'il songeait, le lendemain de la petite scène que nous avons rapportée, tout en découpant les papiers de diverses couleurs qui devaient couvrir la charpente du nouveau cerf-volant. Ernest rayonnait. Il était en veine d'amabilité. Perché sur un tabouret pour suivre plus aisément les opérations, il se penchait de temps en temps vers son frère, lui passait son bras autour du cou et disait « Je t'aime bien, va, quand tu me fais des cerfs-volants !» Les trois amis étaient installés dans la petite cuisine de tante Cornélie, toute reluisante de cuivre bien frotté, devant une table de bois blanc jonchée de pinceaux, de ciseaux, de rognures de papier et de bûchettes. Au bout d'un silence qui avait duré longtemps, Siméon se pencha vers Ferdine et lui dit à voix basse « Charles Gontier est ici !»« Je ne l'aime pas, il se donne des airs » répliqua-t-elle, fidèle à ses antipathies. « J'ai causé avec lui, c'est un homme tout à fait, il aura bientôt 20 ans. » « Ça arrive à tout le monde. » « Mais laisse-moi donc te dire, Ferdine, j'ai appris quelque chose qui me sera utile. Son père n'est pas riche et lui donne un peu d'argent pour ses études. Le surplus, il le gagne. »« Comment fait-il ? » s'écria Ferdine avec vivacité. La figure d'Ernest s'allongeait. « C'est très vilain !» fit-il en descendant de son tabouret. « Vous êtes toujours à chuchoter, vous deux. Je le dirai à ma tante. » « Ce mioche est insupportable, » dit Ferdine. « Et je lui dirai que tu m'appelles mioche. »« Mioche insupportable, n'oublie pas l'adjectif. »« Et je lui dirai que Siméon apprend le latin, » s'écria-t-il exaspéré. Il s'attendait à voir cette menace tomber comme un coup de foudre sur les deux alliés. « Va le lui dire, mon petit Ernest, j'aime autant cela, ces mystères sont parfaitement inutiles. » À sa grande surprise, Siméon haussa les épaules. « Non, je ne le dirai pas, » répliqua Ernest d'un ton scandalisé. « C'est très mal à toi de vouloir me faire dire une chose quand j'ai juré croix de bois, croix de fer, que je ne dirai rien. » « Il est écrit que nous n'aurons pas une minute de tranquillité avec lui, » soupira Ferdine. « Le mieux sera d'achever au plus vite le cerf-volant, » lui chuchota Siméon. « Pendant qu'il le lancera, nous pourrons causer. » Enfin, le dernier ornement de papier rouge fut collé, la dernière papillote attachée à la longue queue sinueuse qui bruissait en ondulant. Ernest, glorieux et ravi, chargea l'aérostat sur son épaule et s'en alla rejoindre d'autres garçons de son âge, réunis dans une prairie fort exposée à la bise et d'où tous les cerfs-volants devaient ensemble prendre leur vol. Siméon et Ferdine le suivirent plus lentement, absorbés dans leur entretien. « Je te disais donc que Charles Gontier, reprit Siméon, gagne la moitié de l'argent nécessaire à ses études. » Il donne des leçons à des élèves peu avancés ou à des étrangers. Pendant son premier semestre, il était fort découragé, n'ayant qu'une répétition par semaine. Maintenant, il en refuse. Je pourrais faire de même si seulement j'avais une petite somme pour commencer. Quand je dis petite, je cite Charles Gontier. 500 francs me paraissent à moi une fort grosse somme. 500 francs ? Répéta Ferdine comme un écho. C'est de quoi vivre 6 mois et payer l'inscription aux cours, les livres, bref, le nécessaire. Maintenant, il s'agit de savoir où je trouverai ces 500 francs, car il me les faut. Les bras croisés sur sa poitrine, les yeux fixés à terre, Siméon s'arrêta. « Ta tante ? » hasarda timidement Ferdine. « Je te l'ai déjà dit, » s'écria-t-il presque rudement, « que ma tante fait pour nous l'impossible. Je l'entends le samedi soir soupirer sur son livre de comptes et calculer au plus près ce que ses broderies lui rapporteront la semaine suivante. Au lieu de manger son pain, je devrais gagner ma vie. J'ai 15 ans. » Ils s'assirent sur le parapet du petit pont qui traverse la rivière entre le moulin et l'étang des canards. « Nous avons une année devant nous pour trouver ces 500 francs, » dit Ferdine après un long silence. « Il arrivera quelque chose, tu verras. » « Je découvrirai sans doute un trésor enterré dans une vieille marmite, » dit Siméon avec quelque ironie. « Ferdine, on devrait t'appeler Mademoiselle Chimère. » Ferdine baissa la tête. « J'ai songé à quelque chose, » fit Siméon. « Cela ne m'avancera pas beaucoup peut-être, mais ce sera un commencement. » « Mon herbier, tu sais, Ferdine ?»« Eh bien, ton herbier, dépêche-toi donc » s'écria-t-elle avec impatience. « Il est assez complet pour ce qui concerne notre flore locale et les spécimens sont beaux. Si je les vendais ?» Ferdine ne répondit rien. Elle avait posé sa main sur le bras de Siméon et ouvrait des yeux démesurés, suivant sa coutume quand une idée nouvelle lui apparaissait. « Siméon, je sais autre chose !» « Quoi donc ? Fabriquons de petits herbiers comme celui que tu m'as fait pour m'apprendre à distinguer les familles de plantes. Tu les porteras à la ville au professeur de botanique du collège et il les vendra à ses élèves. Est-ce une bonne idée, cela, une idée pratique? Ces herbiers ne nous coûteront rien et nous rapporteront quelque chose.
S'ils se vendent, dit Siméon.
S'ils se vendent, répéta Ferdine, mais on se les arrachera. Comment veux-tu que la classe de botanique apprenne à connaître les caractères d'une plante sans avoir cette plante sous les yeux? Nous mettrons toutes les espèces principales dans notre collection. Le professeur te remerciera.
Ferdine, les yeux brillants d'excitation, semblait voir déjà la fortune et la gloire descendre en pluie sur Siméon. Celui-ci, plus positif, considérait l'entreprise dans ses détails d'exécution.
Pour commencer, reprit Ferdine, nous en ferons une douzaine, de 50 feuilles chacun. Plus tard, nous donnerons les espèces rares, si on le désire.
Pour commencer, répondit Siméon, nous en ferons deux ou trois tout au plus. S'ils se vendent, nous verrons à nous lancer dans les grandes affaires.
Ferdine haussa les épaules, mais son projet était adopté, cela lui suffisait.
Le lendemain, ils accoururent à la rencontre l'un de l'autre, les bras chargés de feuilles de papier gris qui contenaient leurs trésors botaniques. Tout ce bagage fut étalé sur la table boiteuse du pavillon. Siméon exhiba un flacon de colle et des pinceaux, Ferdine une paire de ciseaux, une main de beau papier blanc et une bouteille d'encre. Ernest, qui les avait vus très souvent travailler ensemble à leur herbier, ne fit aucune question, mais déclara que lui, d'abord, il trouvait la botanique très bête et qu'il allait jouer avec son cerf-volant.
« Bon, nous aurons donc la paix chez nous !» murmura Ferdine en le voyant s'éloigner.
Quand elle et Siméon eurent choisi les plus beaux exemplaires de chaque espèce, Ferdine coupa d'étroites bandelettes de papier pour assujettir la plante, pour étaler ses feuilles et sa corolle sur le feuillet blanc. Siméon collait ses bandelettes à chaque extrémité. Il avait pour le collage un talent spécial, fait de patience encore plus que d'adresse. Ferdine, avec ses doigts plus minces et plus souples, ne réussissait pas à moitié aussi bien que lui. Elle mettait trop de colle, elle était impatiente et voulait que ça séchât tout de suite. Elle dérangeait les bandelettes encore humides sous prétexte de voir si ça tenait. Siméon avait fini par lui enlever le pinceau avec autorité et se réservait maintenant le département de la colle. Alors, quand une plante, délicatement fixée par ses ligatures, présentait une bonne apparence avec sa racine brune et toutes ses petites fibrilles, ses feuilles bien écartées et sa couronne d'étamine au milieu de la corolle, Siméon écrivait en belles rondes, au coin du feuillet, le nom, la famille et le genre de cet exemplaire. Sans rien lui en dire, Ferdine, qui avait quelque argent de poche, fit fabriquer chez le relieur du village une douzaine de petits portefeuilles gris très propres, fermés par des rubans de coton rouge, et un beau matin, elle les apporta en triomphe à Siméon. On en choisit trois, on logea 50 plantes dans chacun des trois. Siméon écrivit sur les portefeuilles, en écriture gothique cette fois, et avec des ornements à l'encre rouge, « Collection de plantes jurassiennes ». C'était charmant. Les trois collections complètes, parachevées, n'attendaient plus que des amateurs. Ferdine conjura Siméon de les porter à la ville, sans attendre un jour de plus.
« Il faut d'abord que j'en parle à ma tante, » dit-il.
Assurément, ils lui ont coûté de soumettre ses plans à la critique d'une personne qui n'avait pas les mêmes raisons que lui d'en augurer le succès. Cependant, il se décida. Tante Cornélie secoua la tête, soupira un peu.
« Je ne sais trop si tu as raison, mon enfant, de vouloir à toute force sortir de ta sphère. Je puis te donner un bon métier, une profession libérale, non.
Permettez-moi d'aller demain à la ville, j'y trouverai peut-être ma première bonne chance. »
« Ma seconde, fit-il en se reprenant, car la première et la plus grande de toutes est de posséder une tante comme la mienne. »
Il l'embrassa, mais elle soupira de nouveau. Elle regrettait le temps où il n'avait pas de ses idées ambitieuses.